France Culture.
Ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Vous aurez certainement reconnu la musique de la série télévisée Les envahisseurs. Dans notre cas, ce ne sont pas des martiens, mais bien des êtres humains. Violents, conquérants, dominateurs, ils ont redessiné les frontières au gré de leurs ambitions, brassé les peuples, les idées, les langues et les religions. D'Alexandre le Grand à Hirohito, en passant par Attila, Gengis Khan ou la reine Victoria, ils ont conquis les plus grands empires de la Terre et, chacun à leur façon, ils ont changé le monde.
Naturellement indulgente, je m'attirais la confiance de ceux qui avaient affaire avec moi, parce que chacun sentait que la probité et la bonne volonté étaient les mobiles que je suivais le plus volontiers. Si j'ose me servir de cette expression, je prends la liberté d'avancer sur mon compte que j'étais un franc et loyal chevalier, dont l'esprit était plus mâle que femelle. Mais je n'étais avec cela rien moins qu'homme as, et on trouvait en moi, joints à l'esprit et au caractère d'un homme, les agréments d'une femme très aimable. Qu'on me pardonne cette expression en faveur de la vérité, de l'aveu que fait mon amour propre, sans se couvrir d'une fausse modestie.
Nous venons d'entendre un extrait du journal intime de Catherine II, lu pour nous par Daniel Koenigsberg. C'est donc la figure de la grande Catherine, l'impératrice de toutes les Russies, l'incarnation d'un certain impérialisme russe, dont les conquêtes et les choix politiques demeurent d'une actualité brûlante, que nous abordons aujourd'hui. Née en 1729, devenue tsarine en 1762 après avoir fait étrangler son mari par un de ses amants, dit-on, elle meurt en 1796 après avoir légué d'immenses gains territoriaux à la Russie. Figure du siècle des Lumières qui modernise la Russie, ou bien ogre impérialiste qui assoit le penchant dominateur et autocratique du régime tsariste, pour décrypter la figure de cette femme hors norme, j'ai autour de moi deux spécialistes de l'histoire russe. Michel Tissier, bonjour.
Bonjour.
Marie-Karim Choub, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Paris-Est-Créteil. Vous êtes spécialisé notamment dans l'histoire des femmes au pouvoir et dans l'histoire de la Russie du 15e au 18e siècle. Vous avez notamment copublié en 2024 un essai sur la géopolitique de la présence russe dans la mer Baltique, sorti aux presses universitaires de Rennes. Mais vous avez aussi co-dirigé avec Isabelle Poutrin un livre intitulé « Femmes et pouvoirs politiques, les princesses d'Europe du 15e au 17e » aux éditions Bréal. Alors, ma première question serait peut-être, qui est cette jeune femme, Sophie d'Anhalt-Zerbst, qui va changer de prénom, qui va changer de religion et qui va changer de langue pour accéder au pouvoir?
Je crois que l'extrait qui a été lu nous introduit très bien dans ce destin politique. C'est d'abord une petite princesse, d'une famille appauvrie, qui cherche évidemment sur le marché matrimonial des princesses en Europe un bon mariage. Du côté russe, l'intérêt d'épouser, enfin de faire épouser par le futur héritier à la couronne une petite princesse allemande s'inscrit dans une tradition germanique qui existe à la cour de Russie. C'est donc une toute jeune fille qui arrive à Moscou et une toute jeune fille dévorée d'ambition. Et qui a parfaitement compris que les ressorts de la politique passaient, un, par l'éducation, son éducation, et elle a l'éducation d'une princesse avec un certain nombre de lectures déjà à son actif et la capacité de lire un certain nombre de langues étrangères, en dehors de l'allemand bien évidemment, elle lit le français, elle s'initie au français très vite, ce qui lui donne accès à la littérature des Lumières, aux philosophes des Lumières, qu'elle dévore dès son plus jeune âge. Par ailleurs, elle a l'ambition de devenir russe. Et c'est là que je réponds à votre question.
Ça lui vient d'où cette ambition de devenir russe? Parce que il n'y a pas de raison particulière de se tourner vers l'Est à ce moment-là dans l'histoire allemande.
À partir du moment où elle est mariée au futur héritier et où elle arrive à Moscou, elle comprend que le pouvoir ne peut passer que par cette intégration, d'autant plus qu'à cette époque-là en Russie, il y a un clan à la cour très germanophone et qui pose des problèmes à la fois diplomatiques, politiques et culturels.
Oui, et rappelons-le donc, peut-être, elle épouse en fait son cousin, c'est-à-dire que Pierre, celui qui va devenir Pierre III, dans le fond est lui-même complètement allemand. Quoi.
Absolument.
Enfin, d'ailleurs, il porte un nom allemand, il est russe par sa mère.
Absolument. Absolument. Et donc, quand elle arrive à la cour, elle se convertit évidemment à l'orthodoxie et prend comme nom de baptême Catherine.
Et peut-être, je me tourne vers vous, Michel Tissier, comment est-ce qu'on explique cette espèce de tropisme pro-allemand, cette espèce d'intégration presque entre l'Allemagne et la Russie au XVIIIe siècle? C'est dû aux lubies du grand-père de Pierre, c'est-à-dire Pierre le Grand, ou il y a une espèce de mélange des peuples? Comment est-ce qu'on explique ça?
Alors, le premier élément qu'on peut donner, on vient déjà d'en parler, ce sont les stratégies matrimoniales qui sont...
Ils sont tous mariés à des Allemands. Donc.
Voilà, ils sont tournés vers les pays germaniques. Et l'impératrice Élisabeth, en fait, qui organise ce mariage, a sa sœur mariée avec un prince allemand. Et c'est de cette union que le neveu, Pierre, va faire figure d'héritier. C'est Élisabeth qui fait ce choix et qui organise le mariage avec le roi de Prusse, avec Frédéric II.
Mais pourquoi cette fascination ce respect, j'allais dire, pour l'Allemagne? C'est un pays qui est plus avancé technologiquement? Pourquoi est-ce que, par exemple, ils ne se marient pas en Suède ou ils ne trouvent pas d'autres orthodoxes ou...
Alors d'abord parce que la Suède, c'est l'ennemi. Et le tropisme vers les pays germaniques, c'est un tropisme qui s'organise, bien sûr, avec l'héritage de l'ouverture à l'Europe que Pierre Ier a aménagé, ça c'est certain, et où il a puisé tout un ensemble de ressources, d'une part, de modèles aussi, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est le phénomène curial et l'organisation de la cour et la façon dont on conçoit aussi le rôle de la cour pour l'État dans l'organisation.
Parce que d'un point de vue de modèle, il était plus admiratif de la Hollande, si je ne m'abuse, enfin de la flotte hollandaise.
Non, Pierre le Grand.
Et puis pas pour ce qui concerne l'organisation de la monarchie, parce que par définition,
République néerlandaise,
c'est un autre modèle. Donc, il s'agissait pour Pierre de puiser aux différentes sources qui lui paraissaient intéressantes pour transformer la Russie, on a dit révolutionner la Russie d'une certaine façon, mais les pays germaniques...
Sortir presque du Moyen-Âge, en fait, pour décrire les choses concrètement. Alors, non, je vois Marie-Carine Schaub faire l'amour.
Spécialiste du XVIIe siècle ne peut pas renvoyer l'ensemble de la période pré-Pierre le Grand au Moyen-Âge.
Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait un peu de la Russie telle qu'elle est au moment où Catherine II arrive dans le pays au milieu du XVIIIe?
Alors, celle qui est sur le trône, c'est donc une des filles de Pierre le Grand, Élisabeth.
Rappelons qu'il a tué son fils unique.
C'est un pays qui, effectivement, comme vient de le dire Michel Tissier, a considérablement changé depuis le règne de Pierre le Grand, au fond, à tout point de vue. Du point de vue militaire, ce qui va nous intéresser pour Catherine, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue culturel. Il a changé de capitale. La capitale est désormais à Saint-Pétersbourg depuis le début du...
Pour s'ouvrir vers la mer, pour s'ouvrir justement vers l'Europe, c'est ça l'idée.
Et la grande victoire de la fin de la guerre du Nord a permis effectivement aux Russes de s'installer durablement et en fait définitivement sur la mer Baltique, ce qui était un objectif depuis le XVe siècle.
Poltava, vous pensez à...
Nishtat.
Nishtat, la bataille Nishtat. De Nishtat.
La bataille de Nishtat en 1721. Et enfin, Pierre le Grand tourne à la fois le pays vers l'Europe, bien évidemment, mais également vers un héritage culturel romain, puisqu'il se fait, il obtient du Sénat le titre d'impérator, alors que les références culturelles politiques jusque-là était plutôt du côté de Byzance. Et donc là, vraiment, l'empire russe...
se met à tourner, à regarder vers l'ouest.
Se met à regarder vers l'ouest et à rechercher un héritage vraiment romain d'Occident et non pas romain d'Orient.
Rappelons quand même que Tsar, c'est la déformation de César.
Absolument.
Il y avait quand même déjà Enfin, ça pouvait être le César de Byzance.
C'était le César de Byzance. Ouais. Voilà, c'est une des grandes différences, vous me demandez, avant et après Pierre le Grand, du point de vue politique. Et par ailleurs, pour aller dans le même sens que Michel Tissier, les liens avec ce qui s'appelle la Prusse, l'Allemagne, si vous voulez, au XVIIIe siècle, sont extrêmement anciens aussi, entre la Russie et le Saint-Empire romain germanique. Donc ce prisme, cet intérêt pour la culture germanique, germanophone, elle est très ancienne en Russie.
Mais par contre, le pays est quand même socialement très très, je sais pas si le bon mot est arriéré, mais c'est un pays très archaïque. La majorité de la population est quasiment esclave. C'est le servage.
Alors esclave.
En tout cas, ils n'ont pas le droit de se déplacer. Ils sont serfs comme au Moyen Âge en Europe. Il y a une noblesse qui elle-même en fait est extraordinairement soumise au pouvoir. D'ailleurs, elle va obtenir des droits bien plus grands sous Catherine. Enfin, c'est une société à la fois très hiérarchique et extraordinairement rigoureuse quand on la regarde, non?
Alors, effectivement, une des grandes caractéristiques de la société russe, c'est le servage, qui a commencé à s'installer, à devenir de plus en plus important à partir de la fin du XVe siècle. Et lorsque Catherine II arrive en Russie, le servage s'est considérablement aggravé. Ça, c'est tout à fait vrai. Et la grande majorité de la population paysanne est servile. Et le servage s'étend même à d'autres catégories sociales. Il y a des ouvriers d'usine qui sont asservis. Par ailleurs, vous avez raison. Alors, en ce qui concerne les élites politiques, la noblesse, on ne peut pas parler de servage, mais on peut parler de service d'État. C'est-à-dire que cette noblesse
n'est pas libre de ses travail, par exemple, de ses mouvements.
Le service militaire, par exemple, est à vie, le service civil est extrêmement important, et tout ça est organisé de manière extraordinairement hiérarchique depuis les années 1720 par un texte qui s'appelle « La table des rangs ».
Et alors, justement, dans cette société quand même très hiérarchisée, très normée, extrêmement autoritaire, on parle d'une autocratie, il y a quand même quelque chose qui dénote, c'est que l'empereur, en l'occurrence, est une impératrice, Elisabeth, et puis bien sûr, on va parler de Catherine bientôt. Comment s'explique la présence des femmes dans l'héritage? Déjà, on n'est pas dans une loi salique, visiblement. Et est-ce qu'elles arrivent à détenir vraiment le pouvoir ou est-ce que c'est un pouvoir de façade avec derrière des cousins, des consiglieri, des amants, que sais-je, des hommes qui tiendraient le pouvoir? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Carine Schaub?
Alors, je vais répondre en deux temps. En gros, il y a à peu près qu'en France que les femmes ne peuvent pas monter sur le trône en tant que reine régnante. Elles peuvent être reine consorte, femme d'eux, mais la loi salique, c'est plutôt une exception.
Française.
Bon, pas complètement, mais...
L'Espagne.
Il y a énormément de monarchies européennes où les femmes ont tout à fait accès au trône et la Russie n'est pas une exception. Alors, avant l'épouse de Pierre le Grand, la deuxième épouse de Pierre le Grand qu'il couronne et qui règne très peu de temps, un peu après sa mort, il y a des régentes en Russie et qui ont eu un rôle politique considérable au XVe et au XVIIe siècle. Donc l'idée qu'il y a un modèle politique féminin en Russie et qui a un vrai rôle n'est pas une absurdité, n'est pas une incongruité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en revanche, là où vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous, on n'imagine jamais qu'une femme puisse régner seule sans avoir un conseiller. Ouais. Et donc, on attribue évidemment à Élisabeth Ière, et bien sûr à Catherine II, le rôle de les amants divers et variés, les conseillers politiques, pensant que, et ça, dans les sources du XVIIIe siècle, on trouve, et évidemment dans toute l'historiographie qui s'est construite après, il y a l'idée que une femme ne peut pas régner seule sans avoir des conseillers masculins, ce qui n'est jamais le cas ou
C'est pas le cas pour les hommes.
Classiquement, on ne le dit pas pour les hommes. Maintenant, on commence à le dire.
Mais oui, maintenant on le dit. Mais soit dit en passant, c'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'il y a Élisabeth, il y a Anne et il y a Catherine.
Oui.
La plupart des figures de puissance en Russie, finalement, sur la période, sont des femmes.
Oui.
C'est quand même pas une coïncidence, quoi.
Ce n'est pas une coïncidence. Moi, ce qui me frappe beaucoup...
Et les hommes se font zigouiller. Enfin, les héritiers se font condamner à mort dans le cas du fils de Pierre. Enfin, plusieurs des Romanov ont un destin... Enfin, se font écarter du pouvoir ou assassiner.
Oui, oui. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'idée que ces femmes savent très bien user de la rhétorique du genre. C'est-à-dire qu'elles savent parfaitement bien à la fois utiliser ce que sont les compétences attribuées aux femmes... Ce qui est important pour une femme de pouvoir, la bonté, la pitié, la miséricorde, la maternité. Alors, elles n'ont pas d'enfants, mais l'idée qu'on va s'occuper de son peuple de la même manière pour Élisabeth, de la même manière qu'on va s'occuper de sa famille. Ça, c'est aussi une rhétorique extrêmement présente pour les femmes au pouvoir. Et à la fois, elles savent extrêmement bien, d'ailleurs comme dans l'extrait que vous avez fait lire, elles savaient extrêmement bien user également de la rhétorique masculine, tout en disant...
C'est frappant quand même de dire « je suis un chevalier
ouais, ». Bah comme Élisabeth Ière d'Angleterre disait « j'ai le corps d'une femme et le cœur d'un roi ».
Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et alors, pour parler un peu de l'aspect militaire qui nous intéresse, non pas en soi, mais pour ce qu'il raconte sur l'évolution d'une nation... Pourquoi est-ce que la Russie à laquelle va accéder Catherine II est un pays foncièrement expansionniste? Je me tourne vers vous, tiens, Michel Tissier, pour vous poser la question. J'ai ma petite idée, moi, mais j'aimerais avoir l'opinion d'un spécialiste. Est-ce que finalement l'agressivité foncière de la Russie tsariste ne serait pas liée à une forme de fragilité? Je pense à une histoire relativement récente. Rappelons que le grand-duché de Moscou était vassal des Mongols de la Horde d'Or, a été pillé et brûlé encore au XIIIe siècle, que c'est devenu vraiment un pays souverain, une principauté souveraine qu'au XVIe avec Ivan le Terrible, le fameux tsar Ivan le Terrible. Et que non seulement il y a cette histoire assez fragile, mais il y a aussi finalement une géographie de la steppe, sans frontières, sans défense naturelle. Et du coup, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières naturelles, donc il faut toujours attaquer ses voisins pour être en sécurité chez soi. C'est simplificateur ou il y a un peu de ça quand même?
Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites qui me paraissent justes, valables. Ma première réaction serait de se poser la question de la Russie comme État et comme domaine territorial par rapport à d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas la Russie seule. Et si, pour reprendre votre expression, on dit la Russie foncièrement expansionniste, là, peut-être que on part d'aujourd'hui et on regarde en arrière et on se dit et on recherche les origines. Mais quand on raisonne historiquement, on doit aussi mettre l'époque à laquelle on s'intéresse en rapport avec son environnement et les autres
puissances. Tout le monde est expansionniste à l'époque.
Exactement. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de la compétition avec la Suède, hein, à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, la guerre du Nord. Il s'agit dans les conceptions de l'époque, de se dire que le domaine du monarque, le domaine du souverain, s'il ne s'étend pas aux dépens des concurrents, des voisins qui sont des rivaux, risque effectivement de s'amoindrir et de devenir lui-même une proie. Or, pour reprendre ce que vous avez dit, c'est tout à fait évident qu'il y a la conscience d'une fragilité. La conscience d'un passé aussi, qui est un passé dans lequel l'élément chrétien, oriental, slave, russien, comme on dit aujourd'hui, pour être plus précis, se sent menacé, a été lui-même soumis à d'autres autorités, d'autres puissances. Vous avez parlé de ce qu'on appelle effectivement le joug tatar, mais il faut parler aussi à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, de l'expansionnisme polonais qui...
Oui, la Pologne, rappelons-le, à l'époque, est immense pays.
Qui a beaucoup
Pologne et Lituanie, d'ailleurs.
Voilà, Pologne et Lituanie, en fait.
Quand on regarde aujourd'hui sur la carte, ça couvre l'Ukraine, la Biélorussie.
C'est ça. C'est un état double, en fait, polono-lituanien. Et qui a, au début du XVIIe siècle, menacé ce qu'était la monarchie moscovite. Donc, la conscience de cette fragilité, l'état des relations entre les monarchies et qui aspirent à être des puissances dans l'ensemble de l'Europe et dans l'Europe orientale, permet de comprendre ça. Ensuite, un autre aspect de votre question, c'était la construction de la puissance militaire. Et là, bien sûr, ça s'est pas fait en un jour, et c'est pas non plus complètement linéaire. C'est-à-dire que on voit avec Pierre Ier, mmh. effectivement, un projet véritablement de transformer ce que sont les forces de ce domaine pour le mettre au niveau et pour faire sortir la puissance russe d'une relative fragilité.
Alors justement, ce projet expansionniste et militaire, Catherine II va y adhérer, clairement. Marie-Carine Chaube, pourquoi est-ce que, selon vous, elle y adhère si fort? Et est-ce qu'on peut pas dire que c'est même la clé de son pouvoir au moment où elle va renverser son mari?
Alors, deux choses. Ce qui est certain, c'est qu'elle s'inscrit dans l'héritage de Pierre Ier, comme Élisabeth s'inscrivait dans l'héritage de son père, du point de vue politique et du point de vue des relations internationales. Ensuite, ce qui est très paradoxal quand elle prend le pouvoir. Donc, elle prend le pouvoir par un coup d'État, effectivement, et un coup d'État militaire, c'est vrai. Et elle fait assassiner son mari.
Par son amant, par Sergueï Saltykov, c'est ça,
frère,
a priori. Ou son frère, c'est ça. Ils ont mis 9 ans à avoir un enfant, qui est Paul, dont on n'est pas sûr que...
Qui n'est certainement pas de Pierre,
c'est pas le fils
vraisemblablement, mais enfin, il y a un héritier, et qui est reconnu comme héritier légitime, qui est Paul.
Donc il serait le fils de Saltykov, serait le fils de l'amant, c'est ça?
En tout cas, c'est un fils illégitime, très vraisemblablement.
Et Saltykov, pourquoi est-ce que Saltykov, ou l'amant, tue le mari, tue Pierre III?
Parce que on ne peut pas laisser un empereur déchu en prison. Il est mis en prison. Et donc, il lui faut, à Catherine II, le pouvoir alors absolu, je ne sais pas, mais être la seule sur le trône. Mais ce qui est très intéressant du point de vue, là encore, de la symbolique militaire, c'est qu'elle se présente comme une impératrice de paix. Et elle fait publier, elle rédige et fait dire et dit publiquement ce qu'on appelle un manifeste lors de son coup d'État, où elle se présente comme une impératrice de paix en disant « Celui qui voulait faire la guerre avec sa propre société, qui était contraire à toutes nos références culturelles, qui était trop allemand, c'était Pierre III, et moi je vais rétablir la paix dans mon empire ».
Et ceci nous amène à écouter notre deuxième extrait, qui est une lettre écrite non pas à Saltykov, mais à l'amant qui sera le plus important peut-être dans la vie de Catherine, qui est le général Potemkin.
Chérie, bonjour. C'est vrai que nous sommes très tendres l'un pour l'autre. Aussitôt levé, j'ai envoyé chez le vice-chancelier, prince Golitsyn, chercher les rubans et les décorations destinées au général Potemkin. Après la messe, je l'en décorerai. Est-ce que tu le connais? Il est beau, et aussi intelligent que beau. Et il m'aime autant qu'il est beau et intelligent. Et il est aimé dans les mêmes proportions. Il serait bien difficile de prouver lequel de nous deux aime davantage. Si joins les notes que j'ai préparées pour les proclamer aujourd'hui, rends-les-moi aussitôt si tu n'y trouves rien à corriger. Au cas contraire, fais-moi parvenir tes corrections, mon chéri, mon âme. Adieu, mon bijou. Sois gai aujourd'hui, je t'en prie. Moi, grâce à toi, je suis joyeuse et ton image ne me quitte pas même un instant.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Quel est le rôle, finalement, des amants dans la vie de Catherine? Est-ce qu'elle leur donne du pouvoir parce qu'elle les aime ou est-ce qu'elle les aime parce que ce sont des gens talentueux et sur lesquels qui peuvent lui servir de relais de pouvoir? Je pense évidemment d'abord à Orlov, puis à Potemkin.
Alors, très certainement, sans l'aide de cette garde impériale dont ses amants faisaient partie, le coup d'État n'aurait pas été possible. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a une alliance et à un moment donné, un engrenage qui se met en place quand ils comprennent conjointement que c'est le bon moment. Ensuite, quel est le lien entre le pouvoir de ces hommes et leur position d'amoureux, d'amant? Bien évidemment, ils acquièrent du galon grâce à cette position. Mais il ne faut pas nier pour ces hommes-là leur qualité politique, leur qualité militaire. Potemkin est un très grand homme politique et quelqu'un qui a parfaitement bien compris, par exemple, ce qu'il fallait faire en Crimée.
Oui, on va y venir. Alors donc, effectivement, l'assassinat, c'est les frères Orlov, hein, c'est... On cherchait le nom tout à l'heure, mais effectivement, c'est les frères Orlov. Donc, qui sont les grandes relations qui vont jalonner la vie de Catherine à partir du moment où elle tue son mari, ou même avant? C'est qui, finalement, les hommes qui ont vraiment compté dans sa vie?
À part les Orloff, Potemkin, c'est Potemkin essentiellement.
Surtout. Et est-ce que vous prêtez foi à l'idée qu'elle ait pu épouser morganitiquement, épouser secrètement Potemkin ?
Alors, des biographies le disent. Je vous avoue, moi-même, n'ayant pas travaillé dans la documentation à ce propos, mais c'est vrai qu'on le présente comme l'époux morganatique de Catherine II, effectivement.
Et plus surprenant encore...
C'est vraiment un couple au travail.
C'est un couple au travail.
Voilà. Moi, je trouve que l'expression de couple au travail convient bien à ce duo.
Et peut-être plus surprenant encore, quand on regarde les autres cours européennes, ou même avec le recul, Catherine a un, même deux enfants illégitimes d'Orloff. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, elle cache sa grossesse à son mari, qui à ce moment-là est encore en vie, elle accouche. Est-ce que le mari est aveugle? Est-ce qu'il fait semblant de ne pas voir? Ou est-ce qu'elle arrive vraiment physiquement à cacher sa grossesse? Parce que des rois qui ont des enfants illégitimes, ça jalonne l'histoire. Une reine qui a des enfants illégitimes, souvenait de son mari encore vivant.
Oui, mais pensez bien que les rois et reines, les empereurs, impératrices, ne vivent pas ensemble dans les palais européens. Il y a une aile pour le roi, il y a une aile pour la reine, qui se rencontrent très rarement, sauf ceux qui éventuellement s'aiment un peu, mais c'est plutôt rare.
Ouais.
Et alors, dans le cas de Catherine II et de Pierre III, ils se détestaient. Donc, les moments où ils se croisaient... Alors, c'est vrai que dans le film extraordinaire de Sternberg, avec Marlène Dietrich, on voit quelques scènes entre Catherine II et Pierre III, mais leur vie commune était totalement réduite. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ait pu cacher une grossesse.
Je voulais bien réagir sur certaines choses qui avaient été dites... dans le rapport qu'elle pouvait avoir avec ses amants, mais je pense que c'est dans le rapport, plus largement, le rapport qu'elle avait avec la noblesse. C'est-à-dire qu'il y a un aspect sur lequel on a commencé à réfléchir et qui me paraît très important, c'est celui des conditions, comme vous l'avez dit, dans lesquelles elle est arrivée au pouvoir seule, et du problème que ça lui pose. Et un problème qu'elle n'est pas la première à affronter dans l'histoire de la monarchie moscovite et russe, c'est un problème récurrent, c'est celui de la légitimité.
Parce que quoi? Parce que les boyards se considèrent plus légitimes que l'empereur?
C'est un autre moment, là, au XVIIIe siècle, on est passé à d'autres logiques, mais il y a toujours la fragilité, en réalité, de la dynastie et le problème de la continuité. En fait, de cette dynastie, avec, si vous voulez, après la mort de Pierre Ier et avant l'avènement d'Élisabeth, donc celle qui a précédé à Catherine, vous avez eu une très forte instabilité et dans laquelle coup d'État et pression des milieux nobiliaires et particulièrement la plus haute noblesse, l'aristocratie sur la souveraine ou le souverain était extrêmement fort. Et en réalité, Catherine, avec son intelligence, comme l'a dit Marie-Carine Chaube, elle a réussi à jouer sur les différentes factions, sur les déséquilibres en fait absolument structurels de ce fonctionnement politique à la cour, hein, et dans les milieux extrêmement restreints numériquement, mais qui font le pouvoir.
Du coup, quel est le rapport avec les amants? C'est qu'elle choisit, ses affinités en fonction de la
politique. Le rapport, il est là, c'est que elle s'est servie, elle a su, et elle a très tôt compris, très jeune fille, elle est arrivée à la cour à Saint-Pétersbourg, elle avait 16 ans.
Elle a été très malheureuse elle a été quasiment séquestrée.
Comme l'a dit Marie-Carine Chaube, les relations étaient détestables avec son époux légitime. Et
même avec l'impératrice, c'était pas génial, elle s'est retrouvée...
Et en même temps, elle a beaucoup appris d'Élisabeth et de la façon dont se conduit la politique à la cour impériale de Russie. Et là, c'est son intelligence, sa détermination, qui sont des aspects indéniables de sa personnalité, qui lui ont fait comprendre sur qui s'appuyer, comment jouer de ces rivalités et choisir les personnes. C'est aucun des il a beaucoup été question et c'est un élément, si vous voulez, du à la fois de la légende mais aussi des travaux d'histoire sérieux également
l'hypersexualité de Catherine II
sur sa vie amoureuse et par ailleurs avec la misogynie qui peut accompagner ses discours, c'est des choses qui peuvent lui avoir été reprocher, mais comme on ne reproche pas à des hommes choisissant leurs favorites, jouant sur les différentes familles à la cour, que ce soit en France ou dans d'autres pays, d'agir ainsi. Donc en réalité, elle sait faire, elle a très tôt appris à faire, elle sait faire, et les personnes à qui elle accorde sa confiance sont généralement des personnes intelligentes, comme vous l'avez dit, et particulièrement on le voit avec Potemkin.
Mais d'être le favori ou l'amant de Catherine n'est pas forcément une garantie de succès, parce que, par exemple, Stanislas Poniatowski a été son amant, elle l'a aidé à accéder
sur
le trône de Pologne, mais ensuite, oui. Ensuite ça tourne mal pour lui et pour la Pologne. Et d'ailleurs, justement, je me tourne vers vous, Marie-Karine Schaub, pourquoi est-ce que, donc très vite après son accès au trône, au pouvoir individuel, disons, pourquoi est-ce que Catherine II s'attaque à la Pologne? Pourquoi est-ce qu'elle sape l'autorité du roi, sape même l'unité du pays, et puis finalement va s'acharner à l'absorber, quoi?
Alors, c'est un double phénomène. C'est-à-dire qu'il faut regarder du côté russe, pourquoi, et il faut regarder quelle est la situation de cette République des deux nations, la Pologne-Lituanie, à ce moment-là. Alors, la rivalité polono-russe, on l'a déjà dit, elle est extrêmement ancienne. Elle remonte là aussi au XVIe siècle, pour des questions de frontières, et pour quelque chose que nous n'avons pas encore évoqué et qui explique l'expansionnisme russe, c'est l'idée que... la Moscovie, puis la Russie, doit continuer la politique de ce que les tsars du XVIe, XVIIe siècle appelaient le rassemblement des terres. Parce qu'il y a un vieux mythe en Russie, qui est que la Russie est l'héritière de Kiev, de ce qu'on appelle la Rousse de Kiev. Oui. Et que le rôle des souverains russes, depuis le XVe siècle, c'est de reconstituer cette Rousse de Kiev, argument qu'utilise Vladimir Poutine à l'heure actuelle, vous le savez. Et donc, depuis...
Peut-être que pour nos auditeurs, on peut rappeler. Donc, la Rousse de Kiev, c'est le noyau historique, finalement, de quoi? De la culture slave. Enfin, c'est le royaume rourique fondé par des vikings qui ont descendu les fleuves et qui sont installés à Kiev.
Et qui surtout sont convertis au christianisme
orthodoxe, qui est devenu l'orthodoxie.
Oui, au Xe siècle. Et donc, c'est.
Le noyau de ce que va devenir la Russie, quoi.
Voilà. En tout cas, la Moscovie considère être l'héritière directe de ce noyau originel que l'on appelle la Rousse de Kiev.
Et à l'époque, la Pologne domine cette région.
Exactement.
Donc la Russie s'attaque finalement à quelqu'un qui estime qu'elle reconquiert une terre qui est historiquement elle, c'est ça que vous voulez dire ?
Exactement. Donc il y a cet aspect-là qui a expliqué la politique extérieure de la Russie, même avant Pierre le Grand et même avant Catherine II. Deuxième élément, la Pologne-Lituanie, comme vous l'avez dit, a été l'un des États les plus puissants d'Europe. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, pour des raisons internes, en raison de ses structures politiques, de la structure de la monarchie, du rôle de la noblesse en Pologne, qui est très différent de ce qui se passe en Russie, c'est un pays qui connaît une crise politique et, au fond, une décadence politique. Des crises politiques en permanence et qui est de plus en plus affaiblie politiquement. Donc, évidemment...
La noblesse a trop de puissance, elle est vénale, elle a un droit de veto terrible fait qu'elle peut bloquer toutes les institutions.
C'est ça. C'est-à-dire que les structures politiques font que il suffit d'une voix contre une loi et tout se bloque. Et à ce moment-là, la noblesse se constitue en confédération contre le roi, contre celui qui est sur le trône.
Du coup, il y a une noblesse pro-allemande à l'ouest et une noblesse pro-russe à l'est, et c'est ça qui va finalement faire un peu imploser le pays, quoi. Et
exactement. Donc, une situation d'affaiblissement considérable dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et à un moment, effectivement, où le roi sur le trône est menacée directement par une nouvelle confédération qu'on appelle la confédération de Bar. Catherine II donne son appui dans un premier temps et dans un second temps, comprenant très bien la situation politique ne tient plus en Pologne, et bien comme ses voisins autrichiens et ses voisins prussiens, comprend qu'il y a là un gâteau à se partager, ce qui donne lieu au premier partage de la Pologne en 1772.
Et est-ce que, à votre avis, Catherine II était... aurait pu se contenter de ça? Est-ce qu'elle était, comme elle se disait elle-même, une impératrice pacifique? Ou est-ce que, finalement, ça lui donne le goût des conquêtes? Et c'est à partir de la Pologne qu'on va voir cette volonté expansionniste, à la fois au nord, même si ça n'a pas tellement marché, mais surtout au sud, vers les Balkans, enfin, à travers l'Ukraine et les Balkans. Et puis même, rappelons-le, enfin, sur un troisième continent, parce que on parle toujours de l'expansionnisme russe en Europe et en Asie, mais sous Catherine II, la Russie va atteindre l'Amérique. Ils vont traverser, les troupes de Catherine vont traverser le de Bering et vont aller en Alaska.
Donc, est-ce Californie.
Californie. Ouais. C'est quoi? C'est le succès polonais qui lance Catherine II, ou c'était intrinsèquement inscrit dans la logique russe? Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Tissier?
Alors, sur la géographie de cette expansion, il faut différencier les théâtres. C'est-à-dire que c'est vrai que ce que vous venez d'indiquer sur le tropisme asiatique, la projection en Asie orientale et au-delà, il y a des velléités, mais c'est pas à l'époque de Catherine que ça va se concrétiser véritablement. Hein. On est à des phases dans une phase
d'exploration,
une phase d'exploration.
Enfin, elle s'implante quand même en Alaska.
Oui, c'est pas une. On peut pas parler d'implantation.
C'est quoi? C'est une exploration.
C'est une exploration.
D'accord.
En revanche, la Pologne, l'Occident, et puis ce dont il faut parler, bien sûr, c'est l'Empire ottoman. Ce sont des théâtres là qui concernent directement, de la façon la plus intense et la plus continue, la vision expansionniste qui est celle de Catherine.
Mais alors, je repose la question. Oui. Est-ce que c'est opportuniste? Est-ce que c'est au fond idéologique? Et pourquoi cet expansionnisme?
Alors, idéologique, il faudrait qu'on précise ce qu'on entend par là, mais c'est les deux.
Anti-ottoman.
C'est les deux. C'est-à-dire que l'opportunisme, il est dans la construction de la puissance monarchique. C'est par construction, il faut saisir les occasions qui se présentent dans une logique qui est une logique de rivalité avec les autres puissances, comme on le disait tout à l'heure, mais où cette rivalité, il faut bien voir que ça ne veut pas dire qu'on est l'ennemi de tout le monde en permanence. On a des alliances qui se font, qui se défont, et Catherine apprend et maîtrise extrêmement bien ce jeu.
Et sur la mer, c'est pas un grand succès face aux Suédois. En gros, elle est obligée de faire un traité de paix qui n'est pas forcément à son avantage. Par contre, sur la terre, elle va quand même plus ou moins de victoire en victoire. Quelle est la force militaire de la Russie? Quelle est la taille de l'armée de Catherine? Quelle est sa force? Qu'est-ce qui lui permet de vaincre ses adversaires?
Alors, l'armée russe devient une armée extrêmement opérationnelle. Pour préparer l'émission, j'avais noté des chiffres. Il me semble que c'est 150 000, entre 150 000 et 250 000 soldats d'infanterie,
ne serait-ce que d'infanterie régulière,
avec des levées régulières sur le règne de Catherine. Il y a eu des levées quasiment chaque année, essentiellement dans la paysannerie. Donc, selon un système qui avait été mis en place par Pierre le Grand, qui lui-même avait compris que pour mettre sur pied une puissance digne de ce nom, il fallait enfin faire ce que la Russie n'avait pas été capable de faire avant, c'est-à-dire, bon, selon une expression qu'on remet un peu en cause maintenant, elle met la révolution militaire. C'est-à-dire, pour pouvoir désormais être compétitif par rapport à ce qu'était l'armée la plus puissante à l'époque, c'est-à-dire l'armée suédoise. Donc, elle a une armée, elle est à la tête d'une armée qui est extrêmement nombreuse, compétitive.
Infanterie,
avec une artillerie, effectivement, des canons désormais. Et puis, des types de régiments extrêmement utiles dans cette armée, ce dont nous n'avons pas encore parlé, les Cosaques. Parce que les régiments Cosaques ont pu être extrêmement utiles sur terre.
Mais rappelons peut-être que les Cosaques, notamment au début, ne sont pas en fait vraiment du côté de la Russie. C'est plutôt eux qui sont c'est presque l'incarnation d'un État ukrainien indépendant. Ils sont plutôt libertaires, ils ne sont pas impérialistes, les Cosaques.
Sauf que le règne de Catherine II, c'est le moment où elle élimine les dernières infrastructures cosaques qui avaient continué à subsister.
Rappelons pour nos éditeurs, c'est-à-dire la Sitch, c'est-à-dire une espèce de république finalement assez libertaire qui était autour du Dniepr, qui était l'embryon de l'État ukrainien moderne, d'une certaine
manière. Exactement. Et puisqu'on appelait l'Etmana.
L'Etmana.
Voilà, et en particulier l'Etmana. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui explique, quand Michel Tissier parlait d'opportunisme, je pense qu'il y a un élément qu'il faut rajouter. Alors, ce n'est pas de l'opportunisme, mais c'est un événement qui a transformé Catherine II, qui l'a rendue au fond, peut-être beaucoup plus brutale. C'est une grande révolte qui a eu lieu à l'intérieur de l'Empire russe entre 1772 et 1775 d'un cosaque.
Justement, oui.
Et qui a mis à feu et à sang un tiers de l'Empire et a menacé très directement le trône.
Tu aurais pu faire tomber le système,
Alors, il aurait pu faire tomber le système russe. En tout cas, il s'est présenté selon un système très ancien en Russie que l'on appelle l'autonomination des faux tsars. Il s'est présenté comme Pierre III qui n'aurait pas été assassiné, qui aurait survécu. Et il a eu une cour autour de lui. Il a signé des décrets. Il a libéré les paysans du servage. Et
Pougatchev était un cosaque. C'était un ataman, c'est-à-dire c'était un chef cosaque.
C'était un chef cosaque.
Et on retrouve la question de la légitimité.
Et aussi la question de la réforme sociale. Parce que finalement, c'est une révolte sociale, la révolte de Pougatchev.
Religieux, social, les populations halogènes qui voulaient essayer de retrouver aussi leurs droits traditionnels, les vieux croyants, enfin bon.
C'est
un agglomérat.
Et pourtant, Catherine est aussi une réformatrice sociale, en tout cas, elle a une vision sociale. Ça nous amène à notre troisième extrait, le nakaz.
Le servage n'a pas à être une institution russe. Est-ce juste qu'un homme riche puisse posséder un autre être humain ? Or, il en est toujours ainsi dans ce pays. Je crois au bon sens. Je crois au progrès. Car lorsque cet indomptable peuple que sont les Russes se battra pour de telles valeurs, se battra pour l'avènement d'un nouvel empire dans lequel chacun sera reconnu de façon universelle, alors la Russie, votre Russie, ma Russie, notre Russie, deviendra réellement et éternellement une grande nation.
France Culture, ils ont changé le monde. Les envahisseurs. Alfred de Montesquieu.
Il s'agit donc d'un extrait du film de 2019, Catherine the Great, de Nigel Williams. Le discours que nous venons d'entendre est fictif, précisons-le, mais il met en lumière le manuel d'instruction ou nakaz de 1767, réellement écrit et publié par la tsarine. Alors, pour continuer cette conversation autour de cette femme de pouvoir réellement fascinante, sans doute d'ailleurs la femme la plus puissante de l'histoire quand on y pense, je me tourne à présent vers Michel Tissier. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Vous êtes également rattaché au CEREC, Centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centra-asiatiques, un laboratoire d'études pluridisciplinaires de l'EHESS et du CNRS. Vous avez notamment publié l'ouvrage « L'Empire russe en révolution, du tsarisme à l'URSS » aux éditions Armand Collin. Donc revenons à ce fameux nakaz publié en 1767. Est-ce qu'il n'est pas quand même la démonstration que Catherine est une monarque éclairée, un esprit des Lumières, la correspondante de Voltaire, l'amie de Diderot, qui en fait veut introduire le progrès en Russie ?
Alors, je dirais deux choses. Elle est effectivement assez représentative de cet esprit que vous venez de décrire. Et elle est aussi une grande propagandiste. Une très grande propagandiste. Et d'une certaine façon, l'extrait que vous avez dit, c'est un discours fictif. Il est vraiment très fictif, mais il est quand même le reflet, certainement, des efforts innombrables que Catherine a fait, avec un certain succès, pour se présenter, effectivement, comme une personne éclairée, une souveraine éclairée, en relation, en correspondance, en discussion avec les philosophes des Lumières, et préoccupée, soucieuse de faire en sorte effectivement que ces États soient gouvernés à la lumière de la raison. Ensuite, ce qu'on sait, et ce qui est un thème qui est discuté depuis très longtemps, en réalité depuis le règne de Catherine même, c'est que derrière les discours, derrière les proclamations, derrière aussi un certain nombre de réflexions qu'elle a eues personnellement, les réalités étaient très très loin, vraiment très très loin du discours qu'on a entendu, mais même très loin d'un certain nombre de principes qu'elle posait. Et dans le nakaz, en fait, le nakaz, qu'est-ce que c'est ? C'est une instruction, c'est ça que ça signifie, qui est donnée, qui est écrite par Catherine, à la lumière de ses lectures, et une de ses références vraiment très importantes, c'est Montesquieu, l'esprit des lois, oui. Qu'elle a lu, qu'elle a annoté, et dans lequel elle que, énonce...
Même aux antipodes de l'autocratie russe, c'est l'esprit des lois, les contre-pouvoirs...
Oui, mais l'esprit des lois, c'est une réflexion plus largement sur la diversité des régimes et des principes qui sont constitutifs des différents régimes. Donc Catherine est aussi une grande lectrice de travaux d'histoire de son empire, mais l'histoire européenne, l'histoire ancienne et d'autres choses. Donc elle articule ces différentes idées, les conceptions, on pourrait dire, en Europe, les plus avancées de son temps, et elle compose
avec
un écrit
réalité de son pays.
Voilà, elle compose deux choses. Elle compose un écrit ou des écrits comme cette instruction, ouais. Et elle compose aussi, comme vous dites, avec la réalité de cet esprit de son pays. Et c'est très 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 juste parce que d'abord, elle va être dans la proclamation des principes, et c'est sûr que l'instruction, il s'agit de convoquer une assemblée en fait pour codifier le droit de l'Empire à partir de la consultation des différentes catégories libres de l'Empire, donc pas les serfs. Hein. Oui. Et ensuite, il va s'agir de voir quoi en faire, et là, elle va répondre aux critiques qui vont lui être faites ensuite, notamment par des philosophes français, Diderot par exemple, en disant « oui, mais attention, il y a la réalité ».
Justement, la réalité, est-ce que Catherine connaît la réalité de son peuple ou est-ce que finalement elle vit dans une bulle ? Je pense notamment à ce récit historique, ou peut-être légende d'ailleurs, sur les villages Potemkin, c'est-à-dire sur le fait que Potemkin en l'occurrence, construisait des faux villages ravissants avec des petites familles radieuses, bien nourries, dans des belles maisons, qui jalonnaient les routes où il savait que, en l'occurrence, son impératrice, qui était aussi sa maîtresse, allait circuler, pour lui donner un reflet d'une Russie en pleine forme, et qui d'ailleurs sera utilisée plus tard, sous Lénine, sous Staline, et même dans les premiers Tintins, où on retrouve encore les fausses usines, quoi. Est-ce qu'il y a un faux miroir tendu à la souveraine Catherine II ?
Alors, pour répondre à votre question, juste pour compléter ce qui a été dit sur la société russe, comme l'a dit Michel Tissier, au moment de tout ce processus pour mettre sur pied un nouveau code de loi, Catherine fait écrire des cahiers de doléances. Et ça, quand même, les cahiers de doléances, ça permet de voir à un moment, c'est une photographie d'une société à un moment donné. Et ce qui est fascinant, c'est que parmi les plus de, 1000 cahiers de doléances qui ont été rédigés à ce moment-là, à cet hiver 1767, donc par des gens libres, hein, comme l'a dit Michel Tissier, leur seule demande, ou à peu près, c'est de pouvoir avoir le droit, comme les aristocrates, pour ceux qui n'ont pas le statut d'aristocrate, d'avoir des serfs. Mmh. Et donc là, vous voyez, vous vous posiez la question, au moment où elle arrive sur le trône, en fait, c'est une société qui est totalement, je vais le dire comme ça, gangrénée par le servage, économiquement, oui. Mais également politiquement et culturellement. Maintenant, je reviens au voyage. Alors, quand vous parlez des voyages Potemkin, la Crimée est annexée en 1783, et 4 ans après,
elle va visiter la
Potemkin organise un voyage extraordinaire qui va durer 6 mois pour aller visiter la Crimée à partir de Saint-Pétersbourg, où elle invite tout le monde, des aristocrates, Joseph II, des diplomates. La suite, je crois que c'est 3000 personnes qui participent à ce voyage avec des grandes étapes à travers la Russie. Alors, Catherine II a parfaitement compris, comme d'autres souverains avant elle, que le voyage est un acte politique. Et donc, oui, quand même, elle découvre son pays et elle le fait avant. Par exemple, elle fait un voyage dans les Pays-Baltes dans les années 1760, 1764. Et donc, elle visite quand même son pays. Alors, qui voit-elle ? Évidemment, elle voit des élites et elle voit des gens selon un rituel parfaitement orchestré, alors en 1787, par Potemkin. Et l'argument est un argument de civilisation, c'est-à-dire avec l'annexion de la Crimée, on a apporté la civilisation et voyez, nos régions se sont civilisées en l'espace de 4 ans. Rien du tout, rien n'a été civilisé plus que de raison. Et effectivement, Potemkin, au fur et à mesure que dure ce voyage, essaye de montrer ce processus. Alors,
donc il y a une réalité dans la légende du village Potemkin.
L'historiographie déconstruit de plus en plus l'idée qu'elle n'a vu que des façades en Crimée. Ce qui est très important, c'est qu'elle rencontre la pluralité de son empire. C'est-à-dire que lors de son voyage, et on le voit ça dans les mémoires des gens qui ont participé à ce voyage, c'est la variété, je dirais presque ethnique, des gens qu'elle croise lors de ces différentes étapes. Et là,
justement,
l'empire se construit.
Oui. Et justement, je voulais en parler de ça. Est-ce que là, quand même, pour lui rendre un peu justice sur les côtés positifs, j'allais dire, du personnage, il y a quand même une dimension femme des Lumières, c'est-à-dire notamment une certaine tolérance religieuse. C'est-à-dire qu'elle annexe donc des catholiques en Pologne, une très forte minorité juive en Pologne et en Ukraine, une très forte minorité musulmane en Crimée, puisque ce sont des Tatars qui faisaient partie de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs aussi, on l'oublie un peu, mais une minorité bouddhiste en Asie, autour du lac Baïkal. Les Bouriates, qui d'ailleurs, si j'ai bien compris, la considèrent même comme une réincarnation de la figure de Tara, une figure de compassion bouddhique. Donc, quel est son rapport aux minorités religieuses et à la liberté de culte?
Alors, la liberté de culte est plutôt, là encore, une tradition de la Moscovie d'avant Pierre le Grand et encore de l'Empire russe. Et effectivement, elle comprend qu'il faut intégrer ces différentes minorités. Néanmoins, vous avez une politique de russification. Alors, il n'y a pas, je laisserai Michel Tissier peut-être compléter, sous Catherine II, de politique de conversion forcée, me semble-t-il.
Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Tissier ?
Elle est connue effectivement pour un décret ou un édit de tolérance en 1773 qui met fin à des politiques de conversion forcée. Qui ont existé, en particulier dans la région Volga-Kama, avant elle. Et donc, ça va dans le sens de ce que vous disiez. Effectivement, elle a conscience de l'importance du caractère composite de sa population et elle a une pensée de l'équilibre, si vous voulez, mais qui n'est pas son originalité non plus. C'est-à-dire qu'il y a ce caractère composite de la population, de la monarchie. Il est très ancien et il est par construction de l'expansion impériale.
Mais elle ne crée pas une hiérarchie en fonction des religions. Est-ce qu'il y a une espèce de premier rang qui serait les orthodoxes et les autres qui seraient des inférieurs, ou est-ce que elle laisse un peu à chacun sa place?
Alors l'Église orthodoxe a une primauté. Et surtout, elle a un droit que n'ont pas les autres. C'est-à-dire qu'elle a le droit de chercher à convertir.
D'accord.
Et elle garde ce droit. C'est pas l'édit de tolérance ne change pas ça.
Donc, un intérêt personnel à devenir orthodoxe?
Oui, parce que du point de vue de la place dans la société, si vous voulez, de l'accès à un certain nombre de fonctions, ça vaut pour la noblesse.
Oui, le prince Youssoupov, il y a pas mal de grandes familles qui sont converties.
Voilà, donc il y a bien sûr un intérêt personnel pour les gens à se convertir. Mais là, je parlais du point de vue, si vous voulez, des églises. Et l'église orthodoxe, qu'elle a comme droit, que n'ont pas les autres, c'est celui d'avoir une mission, d'entretenir des missionnaires. Donc, ce que Catherine dit, à ce moment-là, elle dit, la mission, c'est juste, c'est légitime, mais on ne va pas forcer les gens. Donc, ça renvoie, encore une fois, à ce qui est sa préoccupation principale, c'est-à-dire faire en sorte que ces États soient bien ordonnés et empêcher, si vous voulez, les troubles, tout ce qui risquerait de mettre en cause son pouvoir, parce que, encore une fois, ce pouvoir a une origine qui reste fragile.
Et un autre aspect peut-être assez novateur finalement de Catherine II, c'est cet expansionnisme qui passe aussi par une forme de, je sais pas, disons le mot, mais colonisation, c'est-à-dire de colonie de peuplement. Enfin, la poussée au sud de l'Ukraine, donc menée par Potemkin, que ce soit en Crimée, mais surtout en direction de la Bessarabie, en direction de ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Donc il y a quand même des déplacements de population, des installations, des incitations à s'installer. Est-ce que ça, c'est disruptif, j'allais dire? Est-ce que ça a déjà existé ou c'est une invention de Catherine II, ça?
Des déplacements de population? Non, il y en a eu auparavant.
La colonie de peuplement?
la colonie... Oui, bien sûr, au fur et à mesure, dans cette poussée vers l'est de l'Empire russe depuis, admettons, le XVIIe siècle, vous avez d'abord un mouvement qui s'organise autour d'explorateurs, de militaires, qui font des fronts militaires, et puis qui installent, autour de fortifications qui se sont installées, des colonies de peuplement. Avec une administration qui s'installe et qui est là pour gérer localement les populations qui sont des populations désormais sous la coupe de l'Empire russe. Donc l'idée de déplacer des populations pour former des colonies de peuplement n'est pas complètement nouvelle. En revanche, peut-être que l'échelle est différente. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, des germanophones des pays baltes qui sont déplacés en Crimée, ça c'est à une échelle qui n'existait pas jusque-là. En
termes ça, c'est une politique volontariste, ce qu'on appelle les Allemands de l'Oural ou les Allemands, enfin les Allemands qui sont déplacés comme ça.
Oui.
C'est quoi? Ils sont incités, on les paye, on les force. Comment ça se passe, Michel?
Les deux. C'est-à-dire qu'il y a des incitations, il y a effectivement, du point de vue des populations allemandes, des incitations qui sont données pour qu'ils viennent s'installer, parce qu'on recherche des compétences.
Et dans le sud de l'Ukraine, même chose. Qui sont les populations?
En fait, il y a deux logiques à regarder. Il faut considérer les populations qui étaient sur place et les populations qu'on fait venir. Les populations qui étaient sur place, pour différentes raisons, encore une fois, on a besoin de qu'elles soient loyales. A fortiori, dans tout ce qu'on va appeler la Nouvelle-Russie, l'annexion de la Crimée et autres territoires sur le littoral de la mer Noire. C'est une population de Tatars, musulmanes. Mmh. Et vous disiez tout à l'heure, par rapport à la tolérance, Catherine a malgré tout une méfiance vis-à-vis de cette population, parce que c'est une population, donc il va y avoir 300 000 Tatars musulmans qui vont être intégrés au domaine russe, si vous voulez, du fait de l'annexion de la Crimée. Et le problème pour Catherine est de savoir jusqu'à quel point cette population est fiable.
Et donc elle déplace aussi
donc,
des populations.
Elle va...
Ils sont qui?
C'est la population autochtone de Crimée, des Tatars, donc c'est un peuple turcophone qui a été islamisé au cours de l'histoire, et qui surtout a une proximité linguistique, culturelle avec l'Empire ottoman. Or, l'Empire ottoman, c'est l'ennemi.
L'ennemi, oui.
On a parlé de la Pologne, mais bien entendu, l'autre grand champ de l'expansion et de la compétition pour la puissance, c'est la rivalité avec l'Empire ottoman. Donc,
et dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de logiciel, pour prendre un anachronisme, chez Catherine II, qui serait celui donc des tsars et qu'on retrouve ensuite jusqu'à Staline, peut-être même jusqu'à Poutine aujourd'hui, de déplacement de population, d'assujettissement de ses frontières? Est-ce que Catherine II a créé le moule géopolitique de la Russie actuelle, Marie-Carine Schaub?
Alors, bon, pour des historiens, c'est toujours très difficile de tirer des fils rouges comme ça sur des siècles et des siècles. C'est vrai. Néanmoins, moi, je vais me contredire moi-même en disant que je pense qu'on peut quand même remonter à Pierre le Grand. C'est-à-dire que Pierre le Grand, il crée, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, un logiciel. C'est-à-dire, effectivement, lui-même dit qu'il faut atteindre les mers chaudes. Et les trois ennemis, c'est la Pologne-Lituanie, c'est la Suède et l'Empire ottoman dont on a déjà parlé. Et donc, c'est vrai que là, il construit des cadres. Ça, c'est sûr. Donc, est-ce que Catherine II est disruptive ou très novatrice de ce point de vue-là? Je ne le crois pas.
C'est elle qui accomplit finalement et qui met en place, notamment en ce qui concerne l'Ukraine, qui met en place cet impérialisme.
Qui continue, en tout cas, ça c'est très certain.
Alors, on parle de l'Ukraine, ce qui nous amène à écouter notre dernier extrait. Il s'agit d'un poème intitulé « Ni la gloire ni la liberté de l'Ukraine n'est morte ». Ce poème est publié par Pavlo Tchoubensky en 1863, qui lui a valu d'ailleurs d'être déporté à l'extrême nord de la Sibérie pour avoir, je cite, « influencé négativement l'esprit des paysans ». Son poème lui a pourtant survécu, puisqu'il est devenu l'hymne national ukrainien et qu'il est chanté chaque jour ou presque aujourd'hui par les soldats qui défendent leur pays contre l'actuelle invasion russe. Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
si усміхнеться доля.
C'est sur cet hymne aux accents tragiques que s'achève notre émission. Merci Michel Tissier. Merci à vous Marie-Carine Schaub. C'était le 7e épisode de la série Les Envahisseurs, une émission d'Alfred de Montesquieu, préparée par Sophie Leiner avec les archives de l'INA, réalisée par Rafik Zénine, avec à la technique aujourd'hui Mathieu Tourin. Vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques et réécouter cette émission en podcast sur l'appli de Radio France. Козацького